Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien, avec Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste pour Média Ténois. Bienvenue à Territoire d'info, votre bulletin de nouvelles francophones pour savoir ce qui se passe au territoire du Nord-Ouest et un peu partout dans le Grand Nord canadien. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine. Alors que l'éclosion de COVID-19 poursuit sa lancée au territoire du Nord-Ouest, les mesures strictes imposées par la santé publique à Yellowknife, Dillon, Delta et Bechokon demeureront en place pour une durée indéterminée. En point de presse, le 6 octobre, l'administratrice en chef de la santé publique, Dr Camille Candola, a toutefois indiqué que certaines écoles pourraient rouvrir leurs portes à partir du 18 octobre.
Our active rate of COVID infection is 7.5 times the national average. We are the highest in Canada.
Le taux d'infection à la COVID-19 des TNO, qui est actuellement 7,5 fois supérieur à la moyenne nationale, serait le plus élevé au pays. Plus de 90% des cas actifs sont actuellement concentrés à Yellowknife et à Bechokon. Une troisième dose du vaccin Moderna sera offerte prochainement aux patients des soins de longue durée, à toutes les personnes immunocompromises du territoire, ainsi qu'aux aînés et au personnel de soins de santé de première ligne qui se trouvent dans les collectivités atteintes par une éclosion.
Right now, we've seen a consistent upward trend in active cases.
À l'heure actuelle, le nombre de cas actifs ne cesserait d'augmenter dans la région du Slave Nord. Questionné sur les niveaux à atteindre pour espérer voir une levée des restrictions, la Dr Candola s'est limitée à parler d'une tendance à la baisse significative.
It doesn't have to be to a zero active case level, but there has to be some kind of indication that we have reached the peak and we're consistently going on a downward trend. And that we have a good handle on active cases, their isolation and their contacts.
Nous n'attendrons pas d'atteindre le niveau zéro de cas actifs pour lever les restrictions, explique la Dr Candola, mais il devra y avoir certains indicateurs qui démontrent que nous avons atteint un sommet, que le nombre de cas actifs suit une tendance à la baisse significative et que nous avons un bon contrôle sur les cas actifs. Ainsi, si une tendance à la baisse suffisante est observée, certaines écoles de Yellowknife et des collectivités visées pourraient accueillir les élèves à partir du 18 octobre, à commencer par les écoles secondaires.
Because they have they're eligible for immunization, and if we continue to see a significant downward trend, to delay by a bit of time the elementary schools, because that's where we anticipate we would get the largest school outbreaks.
Comme l'explique la Dr Candola, les élèves des écoles secondaires sont éligibles à l'immunisation. Il y aura donc un délai supplémentaire pour les écoles primaires où les risques anticipés d'éclosion sont les plus élevés. Malgré le nombre élevé d'hospitalisations découlant de la COVID-19 au cours des dernières semaines, la directrice médicale territoriale, Dr Anne-Marie Pegg, qui était présente au point de presse, a assuré que les systèmes d'alimentation en oxygène de l'hôpital Stanton de Yellowknife ont jusqu'à maintenant suffi à répondre à la demande.
Most important thing to note is that we have not now or at any point exceeded the capacity of the oxygen delivery system at Stanton, and we have been able to provide oxygen for ventilatory support to every patient who has needed it.
La santé publique travaillerait présentement avec des experts afin d'accroître l'efficacité de ces concentrateurs d'oxygène.
The best way to preserve our oxygen resources is to limit the number of people who need them.
La meilleure façon de préserver nos ressources en oxygène, rappelle la Dr Anne-Marie Pegg, c'est de limiter le nombre de patients qui en ont besoin. Elle insiste aussi sur l'importance de respecter les règles de santé publique et de se faire vacciner. Dr Pegg a également répondu aux inquiétudes entourant la flambée des cas en Alberta, alors que plusieurs patients des territoires du Nord-Ouest sont confiés au centre de soins de santé de cette province.
We understand that there may be concerns after seeing the news in Alberta regarding case counts and healthcare capacity. Regular communication is ongoing with Alberta. They continue to accept our emergency and critical care patients and are committed to continue to do so.
Le système de santé de l'Alberta est toujours en mesure de traiter les urgences et les patients en soins intensifs et s'est engagé à continuer à le faire, a-t-elle indiqué.
If there were any scenario where Alberta would not be in a position to accept an NWT patient, transfer to another jurisdiction would be managed in collaboration with Alberta and any receiving province or territory.
Si toutefois le système de santé de l'Alberta devait ne plus pouvoir accepter de patients des TNO, poursuit la Dr Anne-Marie Pegg, ces derniers seraient transférés ailleurs au pays avec la collaboration de l'Alberta et de la province ou du territoire qui accueillerait ces patients. Comme l'a rappelé la docteure Camille Candola, 70 % des personnes atteintes de la COVID-19 qui ont dû être hospitalisées au territoire du Nord-Ouest n'étaient pas vaccinées. La municipalité de Yellowknife n'accordera pas de permis au gouvernement des TNO pour l'établissement d'un centre de jour temporaire au centre-ville, à l'angle de l'avenue Franklin et de la 48e rue. Cette option a été écartée par le conseil municipal ce lundi 4 octobre à 4 voix contre 3. À l'approche des grands froids, le gouvernement devra rapidement trouver une solution, alors que le centre de jour permanent fonctionne au maximum de sa capacité. Dans une déclaration partagée par courriel, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Julie Green, s'est dite profondément déçue de la décision du conseil municipal. « Nous explorons présentement toutes les options disponibles qui répondront aux besoins identifiés et travaillons à déterminer quelles seront les prochaines étapes », a-t-elle ajouté. L'issue de ce vote met un terme à des semaines de débats entre opposants et défenseurs du projet. Selon la proposition soumise au Conseil, ce centre temporaire aurait été en fonction jusqu'en 2024. Certains commerçants voisins du site choisi, qui disent craindre que des usagers du centre ne nuisent à leur commerce, ont indiqué qu'ils s'opposeraient activement à la mise sur pied de ce refuge si le Conseil avait voté en sa faveur. Selon les règles en place, un seul résident a le pouvoir de faire appel d'une telle décision du Conseil et ainsi de retarder le processus de plusieurs mois. À l'approche de la saison froide, un tel délai n'est pas envisageable. Un groupe de résidents a fait circuler une lettre d'appui à ce projet de centre de jour au centre-ville, lettre qui, en date du 4 octobre, avait été signée par 231 résidents. Quelques 22 entreprises et organismes de Yellowknife ont apposé leur nom à la missive.
For other points, people have raised concerns and reasons for support that are outside of what council should be considering.
Lors de la discussion qui a précédé le vote du conseil, la mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty, qui a voté en faveur de la proposition, a fait valoir le traitement particulier imposé à cette demande de permis d'exploitation qui ferait l'objet de considérations qui n'auraient pas lieu d'être de la part du conseil. Elle ajoute que plusieurs autres demandes de permis ont été soumises au conseil par le passé sans qu'on ne remette le lieu choisi en question.
We tend to get into a discussion about whether there's a better location. And that's where I think we stray and don't consider this application like other applications.
Les discussions tendent à se centrer sur la recherche d'un meilleur emplacement pour établir ce centre de jour temporaire et c'est là où, selon moi, nous nous égarons, indique la mairesse, et ne considérons pas cette demande comme les autres demandes. Certains conseillers ont exprimé leur perplexité face à l'emplacement convoité, indiquant ne pas croire, contrairement à ce qu'affirme le gouvernement des TNO, qu'il s'agit là de l'unique solution envisageable.
There are so many businesses out there that have reached out. There have been solutions brought forward, and not every stone has been turned, as had been indicated by the GNWT. There's actually been very few.
Tellement d'entreprises nous ont parlé au cours des derniers jours. Des solutions ont été mises de l'avant, indique la conseillère municipale Stacy Smith. Toutes les pierres n'ont pas été tournées par le gouvernement. En fait, peu d'entre elles l'ont été. Madame Smith a également déploré l'intimidation dont auraient été victimes certains propriétaires d'entreprises. Ouvertement opposé depuis l'an dernier à l'ouverture d'un centre de jour temporaire dans le centre-ville de Yellowknife, le conseiller Nils Kong a remis sur la table une suggestion qu'il a émise en 2020, soit d'installer des tentes adaptées au froid en périphérie du centre-ville pour y accueillir les sans-abri durant l'hiver. Il déplore par ailleurs que toutes les autres options étudiées par le GTNO n'aient pas été partagées avec le conseil municipal. Ce dernier a récemment soulevé la controverse en comparant les propriétaires des petites entreprises affectées par la pandémie aux victimes des pensionnats autochtones. Dans le cadre d'un recensement effectué au printemps 2021, où l'on dénombre 312 personnes en situation d'itinérance à Yellowknife, plus de 62 % des répondants ont indiqué qu'au moins un de leurs parents a fréquenté un pensionnat autochtone. 19 % d'entre eux ont dit avoir eux-mêmes vécu l'expérience.
It's very easy for me to determine what the right decision is here.
Pour sa part, le conseiller municipal Julian Morse a évoqué le devoir du conseil municipal de venir en aide aux personnes dans le besoin.
I am a person in this community who lives with a lot of privilege, and I think that it is my moral obligation, being in the position that I've gotten myself into on council, to make decisions to protect the most vulnerable people in the community. People who are least able to exercise their power, I think that we do have an obligation to make decisions on their behalf.
Je suis moi-même une personne privilégiée, indique le conseiller Julian Morse, et suis dans l'obligation morale, de par mon rôle au conseil municipal, de prendre une décision qui protégera les plus vulnérables, ceux qui sont le moins en mesure d'exercer leur pouvoir. Nous avons l'obligation de prendre une décision en leur nom.
I have to look at the people who are most at risk here, and that's the population that's being served by this shelter. And so I will prioritize their needs over businesses every single time.
Monsieur Morse a ajouté qu'il serait extrêmement embarrassant à ses yeux de voir le conseil se tenir devant cette solution.
We're looking at extremely cold weather and a solution isn't in place. I can't sit here and watch that happen and certainly can't be the decision maker that sets that ball in motion.
Je ne veux pas être celui qui fera obstacle à cette solution, a-t-il déclaré. La conseillère Shauna Morgan a quant à elle exprimé sa bonne foi quant au travail du gouvernement des TNO et souligné l'urgence de mettre une solution en place avant l'arrivée des grands froids.
We want to believe that there's an ideal option out there. We want to believe that there's an option that will make everyone happy. We want to believe that we could do better, but that's not the position we're in.
Il est tentant de dire que nous pourrions faire mieux que le gouvernement des territoires du Nord-Ouest dans ce dossier, mais ce n'est pas la situation à laquelle nous faisons face.
I think we also have to look at, okay, what is the risk of delaying this if people don't have somewhere to go? You know, what are the risks of being harmed out on the street, freezing, all the things, and look at what we could do to make those risks lower. The GNWT has proposed, and what we have in our motion is a list of things that could reduce the risks and concerns that businesses downtown have been talking about.
Étant donné les dangers liés au froid extrême à Yellowknife, la conseillère Shauna Morgan estime qu'il est plus risqué de refuser ce centre de jour temporaire au centre-ville que d'aller de l'avant avec le projet. Les passagers non adéquatement vaccinés contre la COVID-19 ne pourront bientôt plus monter à bord d'avions, de trains ou de croisières au Canada. En gros, à partir du 30 octobre, oui, il faudra présenter une preuve de vaccination valide ou un résultat négatif à un test de dépistage. À partir du 30 novembre, toutefois, personne ne pourra emprunter ces modes de transport sans une preuve de vaccination valide. Mais qu'en est-il des employés qui dépendent des vols NOLISÉS pour se rendre à leur site d'emploi, comme les mines? Marie-Soleil des Hôtels, on en a maintenant le cœur net, les milliers d'employés qui convergent vers les mines du Nord devront être vaccinés avant de monter dans l'avion.
Oui, en effet. Le gouvernement du Canada avait annoncé son intention d'exiger le vaccin à la mi-août et depuis, le secteur du transport attendait plus de détails, de même que des compagnies qui utilisent les vols NOLISÉS pour transporter leurs employés. Avant l'annonce du 6 octobre et la journée même, Transport Canada avait refusé de nous dire si la nouvelle réglementation s'appliquerait aux vols NOLISÉS. Transport Canada nous a finalement confirmé au lendemain de l'annonce, soit le 7 octobre, que les vols NOLISÉS sont bel et bien touchés par la nouvelle réglementation. Donc, les employés des sociétés minières comme De Beers, Arctic Canadian, Diamond et Rio Tinto qui dépendent des vols NOLISÉS pour se rendre aux mines de diamants où ils travaillent devront prouver qu'ils sont vaccinés contre la COVID-19 d'ici le 30 octobre. Peut-être pourraient s'en sortir avec un test PCR d'ici le 30 novembre, dis-je bien. Mais dans tous les cas, après, ils ne pourront tout simplement plus se rendre sur leur lieu de travail s'ils ne sont pas entièrement vaccinés. Les sociétés minières qui s'imaginaient que la vaccination obligatoire toucherait les passagers de vols NOLISÉS avaient commencé néanmoins à s'organiser peu après l'annonce d'août pour prévoir le coût.
Et oui, effectivement, certains n'ont pas attendu de réponse du gouvernement là, pour aller de l'avant. La compagnie de Beers, qui est propriétaire des mines de Gahcho-Kué et Snap Lake, n'a pas pris de chance et a même rendu récemment la vaccination obligatoire à ses employés.
Oui, l'annonce a été faite aux employés le 24 septembre, nous a confirmé le porte-parole de la section canadienne du groupe, Terry Kruger. De Beers a implanté une politique de preuve de vaccination pour les mines de diamants. Le porte-parole disait que c'était important pour eux car leurs opérations s'appuient sur le transport aérien et ils veulent évidemment protéger la santé de leurs employés. La mine Gahcho-Kué emploie environ 600 personnes, incluant des employés de De Beers et ceux d'entrepreneurs. Quelques 85% sont vaccinés, ce qui veut dire qu'un peu moins d'une centaine d'employés ne sont pas vaccinés. Le porte-parole Terry Kruger a refusé de nous dire ce qu'il adviendra de ceux qui ont proposerait une fin de non-recevoir à la vaccination. Il a dit que sa compagnie travaillait au cas par cas avec chaque employé concerné. Cela dit, les employés non vaccinés de la mine et Cathy, eux, savent à quoi s'attendre s'ils ne peuvent pas voyager jusqu'à la mine. La compagnie qui l'opère, Arctic Canadian Diamond, les a avisés le 20 septembre qu'ils seront mis en congé sans solde pour une période jusqu'à 3 mois ou jusqu'à ce qu'ils soient pleinement vaccinés, nous a dit le président par intérim, Rory Moore.
Et donc, si on comprend bien, Marie-Soleil, ici, ce n'est pas la mine Ekati qui impose à ses employés de se faire vacciner. Mais bon, évidemment, ils devront être vaccinés s'ils veulent se rendre sur le site et y travailler.
Aucune obligation de vaccination n'avait encore été mise de l'avant par Arctic Canadian Diamond. Ils attendaient que le gouvernement fédéral clarifie sa politique. Maintenant qu'on sait que ça touche les vols non usés, les propriétaires n'auront pas le choix de se positionner sur la question, à savoir s'ils exigent la vaccination ou non, ou s'ils laissent le gouvernement fédéral l'exiger pour eux.
D'accord.
Près de 1050 employés et entrepreneurs travaillent avec Cathy. La société a distribué des formulaires de consentement aux ouvriers pour collecter le statut de vaccination de chacun. Entre 100 et 140 travailleurs ne sont présentement pas vaccinés à la mine. Près de 400 des employés des Cathy sont représentés par le syndicat des travailleurs du Nord. Sa première vice-présidente, Gayla Tunstrom, jointe au téléphone, a dit que son syndicat déposera un grief si des employés devaient se retrouver en congé sans solde ou perdre leur emploi faute de pouvoir monter à bord d'un vol non usé.
D'accord. Et qu'est-ce qui se passe du côté de la mine de diamants Diavik? Qu'est-ce qu'on a pris comme décision?
On a reçu un peu de détails de la part de Rio Tinto qui opère la mine de diamants Diavik, sinon qu'elle se pliera aux exigences du gouvernement, a affirmé Matthew Clark des relations avec les médias. Diavik compte un effectif de 1100 employés et entre 500 et 600 personnes sont sur le site à tout moment. Matthew Clark a refusé de répondre à nos autres questions, notamment si les employés non vaccinés à Diavik pourraient être mis en congé sans solde. J'ai aussi discuté avec le président de l'Association du transport aérien du Canada, John McKenna, qui a affirmé que si le gouvernement peut exiger la vaccination et ses employés, qu'ils ne sont pas en mesure de faire ça, qu'ils s'exposent à des poursuites, à des griefs d'employés. On le voit avec le syndicat des travailleurs du Nord qui se dit déjà prêt à déposer des griefs pour des employés à Ekati au besoin. Alors, si le gouvernement fédéral a dit qu'il mettrait en place des réglementations pour les entreprises afin de les protéger, tout le monde attend encore ces réglementations-là.
Et on vous invite, auditrices, auditeurs, à lire l'article complet dans le journal L'Aquilon de cette semaine. Marie-Soleil Desautels, merci beaucoup.
Je vous en prie.
La municipalité de Hay River dévoilait ce lundi 4 octobre la liste des grands projets d'infrastructure qu'elle compte mettre en place au cours des 10 prochaines années. Quelques jours avant les élections, le conseil municipal a ainsi pu prendre connaissance d'une ébauche du plan d'immobilisation 2022-2032 de Hay River.
Quite happy to be presenting this document for council today. It's probably one of the most important documents that we're producing in inclusion with our strategic plans.
L'administrateur principal, Glenn Smith, décrit ce document comme l'un des plus importants de la municipalité dans le cadre de son plan stratégique.
Successful in achieving this plan, some of our other major assets, such as a new community center, a new fire hall, also a new town hall is on this plan. If we're successful with this 10-year plan, we would that the town, I think, would be in a very good position for replacement of its key infrastructure and growth.
Si nous pouvons réaliser ce plan avec succès, indique M. Smith, nous nous trouverons en excellente posture en ce qui a trait à nos principales infrastructures et à notre croissance. Parmi les grands projets inclus au plan, on retrouve notamment à court terme le remplacement de la station d'épuration des eaux, la réfection du dépotoir ou encore la construction à partir de 2023 d'une nouvelle mairie. Le plan comprend également la construction d'un nouveau quartier résidentiel en prévision d'une forte croissance démographique dans les prochaines années.
This is the current version of our 10-year capital plan. It's a living document, so we'll be updating this at least annually.
Comme le souligne le directeur financier de la municipalité, Sam Mogford, ce plan est toutefois appelé à changer et sera mis à jour tous les ans. Ces projections sont accompagnées d'une certaine incertitude de l'administration municipale. Comme l'a souligné Glenn Smith, dans certains cas, on ne sait pas où proviendra l'argent pour mettre ces projets en œuvre.
It should be recognized at council that there's still a lot of dollars that, you know, are proposed through actually or for funding of the projects through debt or are just simply not funded yet. So we took the approach of trying to identify what is a need.
Il faut comprendre que plusieurs des projets inclus à ce plan impliquent un endettement ou ne sont pas encore financés. Nous avons donc adopté l'approche d'exposer les besoins de la municipalité dans ce plan, explique Glenn Smith. Une situation qui mettrait en lumière, selon l'administration, le manque à gagner du côté du gouvernement des territoires du Nord-Ouest.
But really it points to a picture of saying, you know, a message really that we are continue to be underfunded by MACA.
Le message, selon Glenn Smith, c'est que les municipalités des territoires du Nord-Ouest sont toujours sous-financées par le ministère des Affaires municipales et communautaires.
There's a high reliance on finding those contribution dollars, those third-party dollars. Without them, we simply cannot proceed with many projects. So there is that uncertainty in funding several of these projects.
Nous dépendons encore beaucoup des contributions de tiers parties que nous devrons trouver, ajoute Glenn Smith, des contributions sans lesquelles plusieurs de ces projets ne pourront tout simplement pas aller de l'avant. Cet enjeu ne serait d'ailleurs pas unique à la municipalité. Selon la mairesse de Hay River, Candice Jamison, il s'agirait même d'une revendication centrale de l'Association des communautés des territoires du Nord-Ouest.
Last week, I was in meetings with the NWT Association of Communities, with the Premier and her cabinet. Number one conversation is the funding gap. And
la mairesse Candice Jamison rapportait au Conseil que lors d'une récente rencontre de l'Association des communautés avec la première ministre des territoires du Nord-Ouest, le premier sujet de conversation était le manque à gagner en matière de financement pour les municipalités. Un enjeu qui, à ses yeux, risque de miner la croissance même des territoires du Nord-Ouest dans son ensemble.
If we fail, they fail. Let's be honest. Communities fail, the government fails.
Si les collectivités échouent à mettre sur pied leur plan de croissance, c'est tout le gouvernement des territoires du Nord-Ouest qui aura échoué. Les parents francophones des territoires du Nord-Ouest ne seront pas appelés aux urnes cet automne. Les commissaires scolaires des écoles de la Commission scolaire francophone des TNO ont été élus par acclamation ce lundi 4 octobre pour un nouveau mandat de 3 ans. 3 candidatures par école ont été soumises pour autant de sièges à combler, ce qui met un terme aux élections scolaires 2021 de la CSF-TNO. L'école Alain-Saint-Cyr de Yellowknife sera représentée par Jean de Dieu Toyeshimi et Simon Cloutier, qui entameront respectivement un second et un troisième mandat. Nathalie Nadeau intègre la commission scolaire pour un premier mandat. À Hay River, Rachel Cook entamera un premier mandat de commissaire aux côtés de Catherine Boulanger et de Jessica King, qui ont toutes deux été élues une première fois en 2020. Simon Cloutier, qui a complété 2 mandats à titre de président de la CSF-TNO, a déclaré qu'il compte passer le flambeau cet automne. Il poursuivra son engagement à titre de commissaire scolaire, mais un nouveau président sera élu en décembre. Selon M. Cloutier, des changements notoires pourraient marquer les écoles francophones des territoires du Nord-Ouest dans les prochaines années. Selon lui, l'école boréale de Hay River aura droit à beaucoup d'attention.
Je peux parler pour moi personnellement. Oui. Les problèmes majeurs à régler restent l'école boréale à Hay River, que les infrastructures ont besoin d'être mises à jour, puis on a besoin de plus d'infrastructures. C'est pas équivalent malgré le jugement de la Cour suprême là, concernant le BC là, qui a eu lieu là, 1 an et demi. Qui dit que, dans le fond, là, les communautés francophones doivent avoir droit à une expérience équivalente des anglophones de la même communauté, ce qui n'est évidemment pas le cas à Hay River présentement. Fait que ça, c'est un dossier majeur.
À Yellowknife, les yeux seront tournés, selon M. Cloutier, vers la garderie Plein Soleil.
Ça, à Yellowknife, ben, le dossier là, qui nous préoccupe à très, très court terme, là, c'est surtout, même si c'est une entité différente, l'agrandissement de la garderie Plein Soleil reste quand même importante parce que c'est nous qu'il faut qu'ils fassent les demandes. Même si on s'occupe pas de la garderie en tant que telle, mais vu que la garderie est dans nos locaux, c'est nous qu'il faut qu'ils fassent les demandes au gouvernement fédéral pour avoir un soutien financier pour l'agrandissement. Fait que ça, puis en plus, ben ça reste notre pépinière, façon de parler là, c'est eux qui fournissent les jeunes enfants à l'école en haut, donc c'est pour nous c'est très important.
La CSFTNO poursuit également ce mois-ci les réflexions entourant un récent jugement de la Cour d'appel des territoires du Nord-Ouest, réflexions qui pourraient influencer les années à venir. Les trois juges de la Cour d'appel ont rejeté au mois d'août la cause de cinq familles non ayant droit, dont les enfants se sont vus refuser l'admission aux écoles francophones par le gouvernement des TNO.
Au niveau de la commission scolaire, dans un ensemble, c'est sûr que le dossier des admissions reste encore là, d'actualité, puisque on n'a pas encore décidé, mais on a jusqu'à la fin du mois pour décider si... qu'est-ce qu'on va faire avec le jugement de la Cour d'appel qui a été reçu. Donc ça va avoir un impact, c'est sûr.
La CSFTNO n'exclut toujours pas de porter cette affaire devant la Cour suprême. Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Surtout, revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission Territoire d'info. Je suis Thomas Étier de l'Initiative du journalisme local pour Média Ténois. Je souhaite une excellente fin de journée.
Territoire d'info. Une émission de l'Initiative du journalisme local financée par le Fonds canadien de la radio communautaire.